Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir à toutes et tous. Et merci d'être là donc pour cette deuxième rencontre organisée avec Survie en quelques jours, puisque mardi, nous avions une rencontre autour du livre de Fabien Lebrun, Barbarie numérique. Et dans un peu plus d'une semaine, c'est dans 15 jours à peu près, on a une rencontre avec autour de Mayotte, département colonie, de Rémi Carayol qui sort à la Fabrique. Barbarie numérique est sorti aux éditions L'Échappée. Et ce soir, on est ravis d'accueillir Raphaël Granvaux, qui vient nous parler de L'huile sur le feu, la France et l'Afrique contre le terrorisme en Afrique, qui est sorti chez Lux il y a quelques mois, et que nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter ce soir. Donc merci à Survie, avec qui on travaille depuis très longtemps déjà. Merci à Jérôme, donc membre de Survie, qui a accepté d'animer les échanges. Voilà, sur le format, je vous laisserai voir dans les détails avec Jérôme, mais l'idée, c'est comme mardi dernier, d'avoir une large place, de laisser une large place au débat et à l'échange. Et toutes les rencontres sont enregistrées, donc vous pourrez retrouver celle de mardi, puis celle de dans quelques jours, enfin, et puis toutes les archives audio Terra Nova sont sur le site depuis quelques années. Voilà, on commence à en avoir quelques-unes. Vous pouvez trouver donc les livres de Raphaël qu'on présente ce soir et ses précédents à la caisse, ainsi que les billets d'Afrique, un petit dépliant qui présente l'association et une feuille sur laquelle vous pouvez vous inscrire si vous voulez suivre les informations de Survie. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci Raphaël. Bonne soirée.
Oui, merci Fabrice. Donc, au nom de Survie, on est très content d'accueillir Raphaël Granvaux ce soir, qui va nous présenter son dernier livre, De l'huile sur le feu, sur la guerre contre le terrorisme que la France... dans laquelle la France est enlisée au Sahel depuis 2012 ou 2013. Et voilà. Enfin, donc tu vas nous parler de ça un peu en détail. Donc je vais juste prendre quelques instants pour présenter l'association Survie. Donc on est très content de notre partenariat avec Terra Nova qui est assez dense cet automne. Et donc Survie, c'est une association qui milite contre le néocolonialisme français sous toutes ses formes. Et donc on milite de quelle façon de plusieurs façons, en produisant des analyses et des expertises comme par exemple le livre dont Raphaël va nous parler. On a également un petit mensuel qui s'appelle Billets d'Afrique, qui est très joli puisque c'est en couleur, que vous pouvez retrouver à la caisse et auquel vous pouvez vous abonner sinon. Et puis on est également dans certains procès, on a été dans les procès contre les biens mal acquis, on soutient les plaignants dans les procès contre les génocidaires du Rwanda en 94. Voilà, sinon actuellement je dis qu'on milite contre la France-Afrique et contre le néocolonialisme français. Également, il y a du colonialisme qui est toujours là. Par exemple, la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, ça n'a échappé à personne. C'est une colonie qui a envie de s'émanciper et qui est tout... où ça se passe vraiment très mal. en Guyane, aux Comores, Mayotte. Donc, il y aura une rencontre sur ce thème dans 15 jours. Voilà, l'association est assez... essaye d'être active sur un peu tous les fronts, mais il y en a énormément. Voilà, donc Raphaël est un militant de survie de longue date, j'imagine, puisque tu as produit un certain nombre une vingtaine d'années, voilà, tu as produit un certain nombre d'ouvrages, et voilà, et donc aujourd'hui tu es là pour nous parler et pour nous présenter donc de l'huile sur le feu, et donc peut-être Raphaël va nous présenter son livre, et ensuite on aura un temps d'échange, et voilà, c'est à toi.
Ok, j'y vais. Donc je vais présenter effectivement un livre dont le théâtre a été essentiellement concentré sur trois pays qui aujourd'hui ont un petit peu disparu des radars médiatiques, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont disparu de l'actualité médiatique en raison sans doute d'une actualité internationale assez chargée et assez dramatique, avec en particulier les conflits en Ukraine et la question palestinienne. Et puis, vraisemblablement aussi, qui a disparu des radars médiatiques parce que l'armée française a été chassée de ces trois pays et donc n'y est plus présente. Et de ce fait, les médias s'y intéressent moins. Et pourtant, aujourd'hui, quand on regarde la situation dans ces trois pays, et particulièrement au Mali et au Burkina Faso, c'est une situation qui est très largement plus grave, pire, que celle qui avait justifié l'intervention française au Mali en 2013, l'opération Serval, et où on assiste à une sorte de banalisation des atrocités de masse dans ces pays, de la part des djihadistes, mais également de la part des forces qui les combattent. Pour donner quelques exemples de cette situation et du niveau de gravité, il y a quelques jours, le groupe affilié à Al-Qaïda au Mali, le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a attaqué l'aéroport de la capitale, Bamako, pour y essayer d'y endommager, d'y détruire les avions que l'armée malienne utilisait pour les bombarder. Et puis quelques jours avant, le même groupe, au Burkina Faso cette fois, a commis le plus important massacre de l'histoire de ce pays, avec entre 300 et 400 personnes qui ont été tuées alors qu'elles avaient été réquisitionnées par l'armée pour creuser une tranchée autour d'une localité qui était justement menacée par les djihadistes. Et les djihadistes ont attaqué à ce moment-là et les ont tous tués. Et quand on écoute les autorités françaises sur cette situation absolument catastrophique, en particulier le ministre des Armées, le Cornu, qui était déjà ministre des Armées sous le gouvernement précédent, cette situation serait consécutive au départ de l'armée française. Et en quelque sorte, la situation aurait commencé à être grave, véritablement grave, uniquement quand l'armée française se serait retirée. Ce qui est vrai, la partie qui est vraie dans cette déclaration, c'est qu'il y a eu en effet une accélération de la dégradation de la situation sécuritaire dans ces pays à partir du moment où il y a eu les coups d'État et peu après, par retour de bâton, le départ de l'armée française. Pour donner quelques chiffres qui illustrent ça, en 2023, on compte 14 000 morts dus au conflit de la crise sahélienne pour ces trois pays. Et c'est le double du nombre de morts qu'on comptait en 2020. Au Burkina Faso, il y a eu 26 000 tués depuis 2016 et on en compte 15 000 depuis le coup d'État de septembre 2022. Donc une part très importante. Et rien que depuis le début de cette année dans ce pays-là, on compte déjà plus de 6 000 morts. Ce qui est faux en revanche dans la présentation des autorités françaises, c'est de faire croire que cette dégradation, elle n'a commencé qu'avec le départ de l'armée française. Et en réalité, à part une très brève période où on a cru que le succès de l'armée française était total en 2013, après l'opération Serval, et où, vous vous en rappelez peut-être, on a vu le président de l'époque, François Hollande, aller faire des discours à Bamako et expliquer que nous avions vaincu le terrorisme et libéré le Mali. Eh bien, en réalité, après une très courte période d'accalmie, les groupes djihadistes qui avaient pourtant subi de très lourdes pertes, puisqu'on estime à peu près à 600 le nombre de combattants tués à ce moment-là par l'armée française, et puis les autres s'étaient repliés dans les pays voisins. Très rapidement, ces djihadistes sont revenus, ont adapté leur stratégie, n'ont plus cherché à contrôler un territoire et à administrer des villes comme ils le faisaient précédemment, mais se sont passés à un mode de contrôle plus indirect des populations, et en particulier des populations rurales, et se sont réimplantés, non seulement là où ils étaient, au nord du Mali, mais très rapidement ont suscité la création de groupes dans le reste du pays, du Mali, au centre du Mali en particulier, et bientôt au Burkina Faso, au Niger, et si on pousse jusqu'à aujourd'hui, des tentatives d'implantation et déjà des situations de conflit aux zones frontalières du Togo, du Bénin, et dans une moindre mesure de la Côte d'Ivoire, du Ghana ou de la Guinée. Donc un élargissement très important de leur sphère d'activité, de leur zone géographique d'activité, de leur implantation et du nombre de morts, je l'ai dit, liés à leur présence et à la présence de ceux qui les combattent. Alors, je vais essayer de traiter la question de pourquoi on en est arrivé là, uniquement sous le prisme, qui n'est pas exhaustif, de la responsabilité française, de l'intervention militaire française, avec cette question de pourquoi au bout de 10 années de guerre contre le terrorisme orchestrée par la France, on aboutit à une situation qui est très largement pire que celle qui prévalait au moment où l'armée française est intervenue. Quand on écoute les autorités françaises et les plus dans la langue de bois, comme celle de Le Cornu que je viens de rappeler, il n'y a en réalité aucune responsabilité et l'armée française n'a remporté que des succès du temps où elle était là. Quand on écoute les autorités militaires, le discours est un petit peu plus nuancé, en particulier l'ancien chef d'état-major des armées françaises, le général Lecointre, reconnaît que la situation, effectivement, s'est dégradée, mais que l'armée française aurait, selon lui, néanmoins permis de limiter les dégâts et que la situation aurait été très largement pire si elle n'avait pas été présente. Quand on écoute les médias français ou même les universitaires, la question de l'effet produit par la présence de l'armée française est très rarement posée pendant ces 10 années. Si on écoute les parlementaires français, elle n'est jamais posée, y compris de la part des élus un petit peu critiques quant à cette présence militaire française, en particulier les élus du Parti communiste ou de LFI, qui peuvent parfois poser des questions pertinentes. Celle-là n'a jamais été posée. Et quand on regarde du côté des militants, et en particulier des mouvances anti-impérialistes à laquelle j'appartiens, souvent cette question a été assez mal posée par méconnaissance des enjeux liés à l'intervention militaire française, mais également par méconnaissance des modalités de son action et des effets de ses actions, de ses diverses actions. Et c'est un petit peu surprenant, parce que dans un passé quand même relativement récent, il y a d'autres exemples qui auraient pu inspirer ces questions-là. Et je pense en particulier aux conflits en Irak et en Afghanistan, où de la même manière, même si les situations ne sont pas exactement comparables, mais on avait vu une ingérence militaire étrangère, sous domination américaine, aboutir à un résultat assez similaire, à savoir que le groupe que l'on prétendait éradiqué dans une guerre contre le terrorisme, s'est révélé finalement plus puissant au moment du départ des Américains. Et comme on sait, les talibans ont repris le pouvoir sitôt l'armée américaine partie d'Afghanistan. Et l'objet du livre, c'était d'essayer de prendre véritablement cette question des effets de la présence militaire française au sérieux et de voir s'il ne pouvait pas y avoir des effets contre-productifs qui expliquaient en partie la dégradation de cette situation. Et donc j'essaie de reprendre dans le bouquin de manière un petit peu exhaustive les différents aspects de cette guerre contre le terrorisme, bon, avec tous les guillemets d'usage pour l'expression « guerre contre le terrorisme » qui est assez problématique et qui a bien évidemment des aspects militaires, mais pas uniquement des aspects militaires, également des aspects politiques ou de développement économique, etc. Pour ce qui concerne, alors je ne vais pas tous les reprendre ce soir, évidemment, ce serait trop long. Je vais essayer d'en présenter quelques-uns essentiellement sur l'aspect militaire et puis de lister simplement quelques autres très rapidement pour vous donner un petit aperçu. Et pour ce qui concerne le volet militaire, c'est d'abord une guerre qui s'est voulue une guerre d'attrition, c'est-à-dire où on essaye d'infliger les pertes les plus importantes possibles aux groupes djihadistes que l'on combattait, voire parfois même avec des allures de guerre d'extermination, puisque même au moment même où elle est officialisée, en 2013, avec le déclenchement de l'opération Serval, bon, en réalité, elle avait commencé un petit peu avant avec des opérations des forces spéciales, opérations secrètes, mais lorsqu'elle est officialisée avec l'opération Serval en 2013 au Mali, on se souvient des discours, là encore, de François Hollande, expliquant qu'il fallait, en gros, ne pas faire de quartier et essayer de faire d'infliger le maximum de pertes à ces groupes djihadistes, ce qui est à la limite du respect des conventions internationales en matière de droit humanitaire international, puisqu'il est théoriquement interdit d'ordonner à une armée de ne pas faire de prisonniers et de simplement tuer les combattants en face. Et de ce point de vue-là, on peut dire effectivement avec les militaires français, puisque c'est le discours qui a été tenu pendant 10 ans, que c'est une forme de succès, puisqu'il y a eu de très nombreux combattants présumés djihadistes qui ont été neutralisés, pour reprendre l'expression officielle utilisée par les militaires français. Mediapart, qui avait essayé de recenser un petit peu les différents chiffres disponibles, que ce soit ceux de l'armée française ou des enquêtes sur place, estimait en 2021, je crois, qu'on était déjà à au minimum 3000 djihadistes qui avaient été neutralisés, et sans compter les cadres de ces groupes-là, qui ont été également, pour un très grand nombre, éliminés par l'armée française. Les dirigeants de ces groupes, qu'ils soient affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, ont, pour une très grande part d'entre eux, été neutralisés, éliminés. Et pourtant, ils ont été remplacés, de même que les combattants, malgré des procédures en apparence assez efficaces, essentiellement par voie de bombardement aérien, notamment à partir du moment où la France s'est équipée de drones, d'abord pour faire du renseignement et puis ensuite les a armés, avec parfois quelques bavures au passage, moins nombreuses que dans d'autres conflits comparables comme celui de l'Afghanistan par exemple, mais néanmoins quelques dommages collatéraux comme on dit. Ce qui était déjà une première chose qui pouvait expliquer pourquoi les groupes djihadistes ont pu tirer profit, parce que évidemment quand des populations sont bombardées par erreur, elles peuvent être tentées de se retourner contre ceux qui les ont bombardées, et ça a été vraisemblablement le cas dans certaines situations. Mais même sans ces questions des dommages collatéraux, ne serait-ce que les bombardements, on va dire, réussis, entre guillemets, de l'armée française, ont pu également avoir des effets contre-productifs et qui avaient déjà été observés, là aussi, en Irak ou en Afghanistan, tout simplement parce que les groupes djihadistes ne sont pas hors sol. Ils ont une implantation sociale au Mali, au Burkina Faso. Ils ont des ancrages, ils ont des liens familiaux, des liens communautaires, des liens, etc. Et les personnes qui les côtoient, quand ils les voient tués par une armée étrangère, quand bien même ils ne partagent pas leur motivation idéologique et religieuse, eh bien, ont pu être amenés par volonté de vengeance à rejoindre à leur tour ces groupes djihadistes. Et ça explique en partie, pour certains chercheurs, pourquoi ces groupes-là ont toujours réussi à recruter davantage que les pertes qui leur étaient infligées et qui étaient pourtant des pertes importantes. Autre aspect de la dimension militaire de la guerre contre le terrorisme menée par la France, c'est la réhabilitation des théories dites contre-insurrectionnelles liées à l'héritage colonial de l'armée française. La contre-insurrection, pour rappel et définition très rapide, c'est cette doctrine, cette stratégie qui vise non pas à essayer de disputer un territoire à l'ennemi que l'on combat, mais qui vise à lui disputer le soutien des populations, à essayer de gagner, pour reprendre l'expression consacrée, le cœur et les esprits de la population, pour les couper de l'éventuel soutien qu'il pourrait apporter, donc ici, au groupe djihadiste. Et les militaires français avaient un petit peu remisé ces doctrines après la guerre d'Algérie, notamment en raison de ses aspects les plus controversés, hein, l'usage de la torture et ce genre de choses, et puis le fait que ceux qui la prônaient avaient fini comme généraux putschistes. Et au contact des militaires américains en Afghanistan, les militaires français se sont sentis un petit peu décomplexés par rapport à ces questions-là, puisque les militaires américains s'en revendiquaient, reprenaient certains des théoriciens français de la guerre d'Algérie, et alors évidemment sans prétendre reprendre tous les aspects, notamment les aspects les plus controversés de ces doctrines. Et les militaires français, donc, à leur tour au Sahel, ont dit « Eh bien, nous aussi, on va refaire de la contre-insurrection » et utiliser certaines méthodes contre les djihadistes. Et au nombre de ces méthodes, on va trouver par exemple ce qu'on appelle l'action psychologique, où on va essayer d'exercer une influence sur les populations par certains messages. Donc on a pu voir par exemple les militaires français larguer des tracts auprès des populations du nord du Mali, tracts qui disaient « Barkhane vous surveille ». Avec un effet sans doute pas à la hauteur des espérances, puisqu'on peut imaginer l'effet produit sur les populations de ce type de message, hein, dont on ne savait pas très bien s'il s'adressait aux populations ou aux djihadistes. On a également des méthodes qui se veulent plus de l'ordre de la séduction, où l'armée française, par exemple, lorsqu'elle va opérer des opérations dans certaines zones, va essayer d'apporter des services aux populations. Son service des santé, par exemple, va proposer des consultations et des soins gratuits, ou bien le génie de l'armée va reconstruire telle école, reconstruire tel pont, etc. Donc apporter des services de nature diverse, économique ou autre, aux populations pour essayer de donner une bonne image, notamment de l'armée française, et parallèlement essayer bien évidemment de récupérer du renseignement auprès des populations dont on va essayer de s'attirer les bonnes grâces de cette manière-là. Alors ces choses-là peuvent apparaître plus ou moins sympathiques, puisque c'est des services malgré tout qui sont rendus à la population, mais qui peuvent également, d'après certains chercheurs, avoir des effets pervers du point de vue de l'objectif que l'on veut atteindre, savoir couper ces populations-là de l'influence des djihadistes, puisque en creux, ça faisait aussi ressortir tous les services que l'État malien ou l'État burkinabé ou l'État nigérien auraient dû rendre à ces populations et qui n'étaient pas rendus. Et donc toutes les carences que ces populations pouvaient constater et déplorer, et qui étaient un axe justement d'implantation important des groupes djihadistes qui prétendaient, eux, se poser en alternative politique par rapport à des États qui, soit au mieux, les délaissaient, soit au pire, n'apparaissait que comme une force prédatrice lorsqu'il s'agissait de taxer des activités économiques ou bien d'exiger des pots de vin pour rendre la justice. Et donc les djihadistes pouvaient apparaître comme proposant d'une certaine manière des services que ne rendait pas l'État et parfois d'une manière, alors certes parfois plus violente et plus radicale et plus expéditive que ne le faisait l'État, mais aussi parfois aux yeux des populations plus impartiales ou plus efficaces, par exemple en matière de redistribution des richesses ou ce genre de choses. Donc là aussi, des effets qui pouvaient être assez négatifs. Et par ailleurs, ces théories contre-insurrectionnelles ont un volet un peu moins reluisant qui s'apparente davantage à des pratiques d'ordre policière, puisqu'il s'agit également de débusquer l'ennemi qui peut se cacher dans la population, et de séparer les djihadistes du reste de la population. Et donc, quand l'armée française, aux côtés de l'armée malienne, en particulier dans le nord du Mali, mène des opérations de ratissage dans certaines zones où les djihadistes sont implantés, eh bien, quand on va traverser des localités, des villages, on va fouiller les maisons, on va éventrer les matelas pour voir s'ils ne cachent pas d'armes, on va confisquer les téléphones portables dès lors qu'on aura l'impression qu'il y a du contenu suspect à l'intérieur, ou bien on va confisquer les motos parce que c'est le mode de déplacement privilégié des djihadistes, etc. Et là encore, évidemment, on peut imaginer l'effet produit sur les populations et la manière dont ça a pu contribuer à faire apparaître l'armée française comme une armée d'occupation. Et puis, en plus de ce volet militaire, il y a également des aspects civils ou politiques qui ont accompagné, qui ont essayé de contribuer à cette guerre contre le terrorisme et qui ont également eu des effets pervers. Alors, pour aller un petit peu plus rapidement, notamment un certain nombre de mesures qui relèvent de ce qu'on appelle le state building, c'est-à-dire cette tentative de reconstruire des États faillis, mais de les reconstruire de l'extérieur en imposant à ces États-là un certain nombre de dispositions institutionnelles ou para-étatiques. Et par exemple, dans les cas des États du Sahel, ça a été une sorte de millefeuille institutionnelle, de superposition de structures qui leur ont été imposées de l'extérieur. Donc d'abord, le G5 Sahel, une structure destinée à mieux coordonner l'action des 5 pays dans lesquels intervenait la France, donc les 3 que j'ai mentionnés, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, mais également le Tchad où il y avait le quartier général de l'opération Barkhane qui a succédé à l'opération Serval, et puis la Mauritanie qui était également associée, même si elle n'était plus tout à fait confrontée à des groupes djihadistes à ce moment-là. Donc une structure institutionnelle G5 Sahel pour coordonner leurs efforts en matière de lutte contre le terrorisme. Et puis par-dessus, on a rajouté une autre structure qui s'appelait l'Alliance Sahel pour coordonner le G5 Sahel avec les bailleurs de fonds et les partenaires extérieurs que les autorités françaises essayaient d'inclure dans le processus, donc des pays européens, mais également la Banque mondiale ou des choses comme ça, ou des organismes internationaux. Et puis par-dessus, encore une autre structure qui s'appelait le PS3 pour essayer de tirer sur le côté sécurité et réforme de la justice, et puis plus, etc. etc. Et donc, un espèce d'empilement comme ça de structures qui n'étaient pas décidées par les États africains eux-mêmes, mais qui, par contre, mobilisaient de leurs ressources institutionnelles, administratives, humaines, financières, et dans lesquelles ils s'impliquaient plus en réalité pour essayer de percevoir des financements de l'extérieur, plus que dans une approche qui aurait correspondu à une réelle définition endogène d'une stratégie adaptée à leur pays. Et là encore, qui n'a pas donné grand-chose. Et dès que l'armée française et l'opération Barkhane s'est arrêtée, tous ces dispositifs-là se sont effondrés derrière. Autre élément qui a eu des effets assez négatifs, c'est le fait que cette ingérence militaire française s'est accompagnée d'une ingérence politique renforcée. Là encore, en particulier au Mali, les autorités nigériennes un peu moins, mais agissant en bonne intelligence avec la France, et les autorités burkinabées y étant un petit peu plus réticentes, et il a fallu parfois leur tordre un peu plus le bras pour le faire accepter. Et ingérence qui pouvait prendre la forme, par exemple, d'un droit de veto de la France sur le choix du Premier ministre au Mali, ce genre de choses, et également sur la définition de la stratégie à mettre en œuvre pour combattre les groupes djihadistes, puisque pour la France, il était absolument hors de question d'avoir d'autres perspectives qu'une simple approche exclusivement ou quasi exclusivement militaire et sécuritaire, qui n'a pas donné les résultats escomptés, alors même qu'au Mali, s'était exprimé à plusieurs reprises de la part des élites nationales, mais également des élites locales, réunies à plusieurs reprises sous la forme de conférences nationales ou de choses comme ça, et qui s'était exprimé très massivement à plusieurs reprises pour une demande de tentative de négociation avec certains des groupes djihadistes dont les militants étaient des militants maliens et pour certains d'entre eux des vieux routiers de la politique malienne qui avaient basculé dans le djihadisme, en particulier Yad Agrali qui était le fondateur d'Ansar Eddine au Mali. Et à chaque fois, quand ces approches-là ont voulu être mises en œuvre, que ce soit au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la France a mis son veto et l'a empêché, y compris parfois militairement, en bombardant les personnes avec lesquels les autorités de ces pays-là avaient tenté d'instaurer des canaux de négociation. Et donc cette voie-là n'a jamais pu être mise en œuvre, alors qu'à une certaine période, certains chercheurs d'ONG ou universitaires et les élites, je l'ai dit, politiques de ces pays-là, considéraient qu'il y avait une carte à jouer pour réintroduire dans le jeu politique plus traditionnel certains des dirigeants des groupes djihadistes ou certains des cadres intermédiaires de ces groupes-là, et que ça aurait permis d'affaiblir ces mouvances djihadistes et d'aboutir peut-être à d'autres résultats. Et ça n'a jamais pu être tenté. Et puis, pour donner un dernier exemple qui a pu, là aussi, donner du grain à moudre aux djihadistes, c'est le fait que, pour mener cette guerre contre le terrorisme, la France s'est appuyée sur des régimes qui, pour certains d'entre eux, ont fini par être complètement discrédités aux yeux de leur population, soit parce que totalement corrompus, comme c'était le cas du régime du président Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, soit parce que particulièrement répressif, comme ça pouvait être le cas de la dictature tchadienne d'Idriss Déby. Et là encore, c'était pain béni pour les djihadistes qui disaient « Regardez, vous avez face à vous un État qui ne vous respecte pas, qui vous opprime ou qui accapare vos richesses et qui en plus est complètement inféodé à des intérêts étrangers. Et nous, nous sommes les véritables résistants, rejoignez-nous, etc. » Donc du pain béni pour leur rhétorique et qui a pu expliquer aussi pour partie la facilité avec laquelle ces groupes-là ont pu recruter et reconstituer leurs effectifs. Donc, si on fait le bilan de toutes ces approches, on peut dire qu'à minima, c'était des effets pour le moins ambivalents et très certainement contre-productifs au final. Et qu'en tout cas, le terreau sur lequel prospéraient ces groupes djihadistes, eh bien, ces approches-là n'ont jamais permis de le résorber, de le soigner. Au contraire, par certains aspects, ont pu contribuer même à le renforcer. Alors bien évidemment, ça n'est pas que de la responsabilité des autorités françaises, militaires et politiques, mais il y a à coup sûr une part importante de responsabilité. Et puis, autre élément de bilan de ces 10 années de guerre contre le terrorisme, c'est, me semble-t-il, les coups d'État militaires auxquels on a assisté dans ces 3 pays à partir de 2021. Donc 2 au Mali, 2 au Burkina Faso et 1 au Niger à l'été 2023. Non pas parce que les autorités ou l'armée française auraient été complices des putschistes, comme ça a été le cas par le passé dans certains pays, mais parce que la dimension justement militaire et sécuritaire avait pris une telle importance dans ces pays-là au point de phagocyter tous les autres enjeux politiques, que les militaires ont fini par faire irruption sur la scène politique en disant « Bah, écoutez, puisque c'est ça la chose importante à faire, laissez-nous faire, c'est nous qui allons prendre les commandes et on le fera bien mieux que les autorités civiles qui étaient en poste jusque-là. » Ce qui jusqu'à présent ne s'est pourtant pas véritablement confirmé. Et autre élément également de bilan de cette décennie de guerre contre le terrorisme, c'est l'hostilité grandissante des populations à l'égard de cette présence militaire et de l'ingérence française. Hostilité justement sur laquelle se sont appuyés les régimes putschistes pour construire leur légitimité, hein, puisque à partir du moment où ça a commencé à coincer avec les autorités françaises, puisqu'au début le premier coup d'État au Mali a plutôt été bien vu par les autorités françaises, et puis au fil des mois les relations se sont tendues, et à partir de ce moment-là les putschistes maliens ont joué sur la corde anti-impérialiste et anti-française avec un succès absolument considérable, très important, et ont gagné une légitimité incontestable de ce point de vue-là. Et les coups d'État suivants au Burkina Faso et au Niger ont joué la même carte avec le même succès et ont révélé que la généralisation de cette hostilité à l'ingérence française. Alors c'est pas quelque chose qui était complètement nouveau puisqu'on avait déjà pu assister à ce genre de phénomène dans certains pays par le passé. Je pense en particulier en 2004 lorsque l'armée française avait tiré sur des civils ivoiriens à Abidjan ou lorsque les autorités françaises avaient appuyé la transition dynastique au Togo en 2005 ou encore en 2008 au Cameroun ou plus récemment encore au Sénégal où des symboles de la présence présence française ou des intérêts économiques français avaient été pris à partie par les manifestants. Donc c'est des choses auxquelles on avait déjà pu assister, mais là c'était vraiment une généralisation très importante et qui s'explique justement par l'échec de cette guerre contre le terrorisme, parce que les populations africaines ne comprenaient pas pourquoi une armée puissante, une des armées les plus fortes du monde, habituée à intervenir, disposant d'un matériel technologique avancé, ne parvenait pas à venir à bout de ces groupes djihadistes. Et au point d'alimenter un certain nombre de théories du complot, puisqu'on a vu fleurir sur les réseaux sociaux un certain nombre d'hypothèses selon lesquelles, si l'armée française n'y arrivait pas, c'est qu'en réalité elle faisait semblant et qu'en sous-main, elle contribuait à renforcer ces groupes djihadistes, à les armer, à les financer, etc. Et comme en plus par là-dessus, les influenceurs russes liés au groupe paramilitaire Wagner sont venus rajouter de l'huile sur le feu, ces théories-là se sont véritablement généralisées. Aujourd'hui, quels sont les enjeux? Puisqu'on pourrait se dire l'armée française n'est plus présente dans ces trois pays. Donc, après tout, ça ne nous concerne plus vraiment. Et en réalité, pas tout à fait. Ça nous concerne encore un petit peu, voire un petit peu plus qu'un petit peu. D'une part parce que si l'armée française a quitté contrainte et forcée ces trois pays-là, elle n'a pas quitté les autres pays africains dans lesquels elle était implantée. Il y a toujours des bases militaires à proximité. Il y en a toujours au Gabon, au Sénégal, au Tchad et puis un petit peu plus loin à Djibouti. Même si aujourd'hui les autorités françaises sont dans une phase où on réfléchit à la manière de rendre ces bases un petit peu plus discrètes en raison justement de l'hostilité grandissante dont je parlais et qui gagne également certains pays voisins. Et elle est également présente sous forme de coopération militaire. Et une coopération militaire, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et le djihadisme, qui utilise toujours le même logiciel qui était à l'œuvre les 10 années précédentes dans ces trois pays et qui a échoué. Et pourtant, c'est toujours ce logiciel-là qu'on utilise lorsqu'on fait de la coopération militaire pour former les forces spéciales qui vont aller combattre les djihadistes, justement dans les pays aujourd'hui menacés dont je parlais, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Bénin, etc. Et puis, ça nous concerne également parce que, et là, au premier chef, en tant que citoyen et citoyenne français, parce qu'un autre élément très fort de continuité avec cette décennie de guerre contre le terrorisme, c'est l'absence complète de contrôle démocratique sur cette politique qui a été menée en notre nom pendant 10 années. Pour donner quelques indicateurs, pendant quasiment 10 années de ce qui a été la plus importante opération militaire française depuis la guerre d'Algérie, en durée, en volume, en moyens mobilisés, etc., en financement, eh bien, il n'y aura eu en tout et pour tout que 3 débats dans nos assemblées. Une au moment du déclenchement de l'opération Serval en 2013, dans une ambiance de consensus national quasi total. Un deuxième débat 4 mois après, puisque la Constitution réformée en 2008 impose désormais que le Parlement soit saisi lorsqu'une opération militaire dépasse 4 mois et qu'elle soit autorisée par la représentation nationale. Là encore, dans une ambiance de consensus national quasi total, puisque aucun député n'a voté contre la reconduction de l'opération Serval, qui était, je l'ai dit, considérée comme un succès à ce moment-là. Et une troisième tournée de débat, bien longtemps après, je ne sais plus si c'était fin 2020 ou début 2021, lorsque le seuil des 50 militaires français tués a été dépassé et que les sénateurs ont exigé qu'on rediscute un petit peu de la stratégie. Et donc il y a eu ce débat, mais sans vote. Et puis, sur la même période, il n'y a eu en tout et pour tout qu'un seul rapport parlementaire et qui, en plus, se contentait de répercuter les éléments de langage de l'armée française et a été absolument sans aucune forme de critique sur les différents aspects que je viens de mentionner. Et les très maigres capacités de contrôle dont disposaient les parlementaires français n'ont même pas été assumées jusqu'au bout, puisqu'à certains moments où il y a eu des bavures, par exemple lorsque l'armée française a bombardé un mariage au nord du Mali début 2021 en pensant qu'il s'agissait d'un regroupement de djihadistes, il y avait la possibilité pour la direction du Sénat de demander une levée du secret défense sur les documents entourant ce bombardement, et ça n'a pas été fait malgré les sollicitations de certains journalistes. Et d'autre part, le contrôle prévu par la Constitution au terme des 4 mois n'a même pas été appliqué pour l'opération qui a succédé à l'opération Serval, l'opération Barkhane, au motif, nous disaient les autorités françaises, que c'était uniquement la suite de l'opération Serval précédente et d'une autre opération qui avait lieu au Tchad, l'opération Épervier. Et donc, comme c'était la suite, il n'y avait pas nécessité de redemander leur avis aux parlementaires. Or, si on peut discuter de la continuité en ce qui concerne l'opération Serval, puisqu'il s'agissait bien toujours de combattre les groupes djihadistes avec l'opération Barkhane, celle-ci ne se déroulait plus simplement au Mali, mais je l'ai dit, sur 5 pays. Donc là, il y avait peut-être quand même nécessité de redemander leur avis aux parlementaires. Et pour ce qui concerne l'opération Épervier, il n'y avait pas du tout de continuité en matière de mandat, puisque l'opération Épervier au Tchad n'avait rien à voir avec la guerre contre le terrorisme. C'était une opération qui datait de 1986 et qui avait été déclenchée à l'époque contre la volonté du régime de Kadhafi en Libye d'annexer une partie du Tchad. Donc là encore, pas vraiment de continuité et très certainement, il y aurait eu nécessité que cette question soit rediscutée et revotée par les parlementaires, et ces derniers n'en ont même pas fait la demande. Donc autant d'aspects qui amènent à conclure, je pense, que les mobilisations restent nécessaires, puisque l'armée française reste présente en Afrique, que la volonté de continuer à s'ingérer dans d'éventuels conflits africains ultérieurs est toujours présente, et c'est expliqué en toutes lettres dans les rapports parlementaires français, c'est que les autorités françaises aujourd'hui, dans une très grande majorité, considèrent que le moyen par lequel ils peuvent encore faire de la France une moyenne grande puissance, le moyen par lequel ils peuvent continuer, comme ils disent, à peser sur la scène internationale, ou encore, pour reprendre les expressions utilisées, à faire en sorte que la France maintienne son rang sur la scène mondiale, eh bien, c'est cette manière-là de continuer à s'ingérer dans les conflits africains et de jouer un rôle de maintien de l'ordre dans ce qu'on considère encore comme le précaré français. Et puis, si nous, citoyens et citoyennes français, nous voulons que ce qui est considéré encore comme un domaine réservé du président de la République et de son état-major ne le soit plus et soit soumis à un minimum de contrôle démocratique, là encore, je pense qu'il y a nécessité de continuer à informer et à se mobiliser sur cette question. Voilà, merci.
Merci Raphaël. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions ?
Oui, je voulais savoir, dans cette guerre par rapport à ces 3 pays, la position de l'Algérie et de la Mauritanie, et dans quelle mesure ils subissent ou ils ont pu participer finalement à cette dégradation dans ces 3 États ?
Donc pour ce qui concerne l'Algérie, ça a été un rôle ambivalent et parfois ambigu, avec des ambiguïtés qui lui ont été reprochées, y compris par les autorités politiques et militaires françaises. Initialement, l'Algérie a autorisé le passage dans son espace aérien des avions français pour l'opération Serval, donc un accord avec le déclenchement de cette guerre. Et d'ailleurs, le fait que François Hollande se soit rendu quelques mois auparavant en Algérie pour négocier ça était un des indices qui nous avait fait penser au sein de l'association Survie que quelque chose se préparait, et qui nous a fait dire, au moment où l'opération Serval a été déclenchée et présentée comme une urgence absolue et comme une guerre qu'on n'avait pas prévue, mais qu'il allait bien falloir mener malgré nous, que ça n'était pas tout à fait la réalité. Ensuite, l'Algérie a été impliquée parce que elle a parrainé des accords impliquant différents protagonistes de la crise malienne, les accords d'Alger, qui ont été signés en 2015. Alors, je suis obligé de faire un tout petit retour en arrière pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. La crise malienne est une crise djihadiste, mais pas que. Il y a plusieurs conflits qui s'imbriquent. Lorsque les djihadistes venus d'Algérie, justement, au départ, se sont implantés au nord du Mali, et puis se sont affiliés à Al-Qaïda et ont pris le nom d'ACMI, c'était déjà un premier problème. Le deuxième problème, ça a été lorsque on a assisté à un renouveau de l'irrédentisme des mouvements nationalistes et autonomistes ou indépendantistes maliens, peu après, et que ces groupes-là se sont retrouvés renforcés militairement à la suite d'un autre conflit à laquelle la France a très largement participé, qui est la guerre en Libye contre le régime de Kadhafi. À ce moment-là, les services secrets français ont très fortement poussé pour que les Touaregs qui servaient dans l'armée de Kadhafi l'abandonnent et regagnent leur pays d'origine, donc soit le Niger, soit le Mali. Au Niger, ils sont revenus, ils ont été désarmés. Au Mali, ils n'ont pas été désarmés et ils sont venus renforcer le mouvement indépendantiste qui a fondé le MNLA, le mouvement national pour l'indépendance de l'Azawad, ce que les indépendantistes appellent l'Azawad, le nord du Mali. Et suite à ce renfort, ils ont déclenché les hostilités contre le sud du Mali, contre l'armée malienne, avec le concours des groupes djihadistes, donc au début une sorte d'alliance objective entre ces différentes mouvances. Et puis, ils ont été éjectés par les groupes djihadistes après une très brève expérience de gouvernement commun qui n'a pas abouti. Et ils se sont retrouvés exclus de la région. Et lorsque l'armée française est revenue avec l'opération Serval, elle a ramené dans ses bagages justement le MNLA et les groupes indépendantistes. Elle a laissé en plan l'armée malienne qui l'accompagnait jusque-là avant d'aller dans le nord du Mali. Et elle a remis en selle le MNLA pour s'adjoindre ses services comme auxiliaire, comme milice pour l'aider à traquer les groupes djihadistes. D'ailleurs, c'est un des aspects de la contre-insurrection dont je n'ai pas parlé et qui a eu aussi des effets très négatifs. C'est l'instrumentalisation, à certains moments par l'armée française, de milices communautaires avec des effets absolument catastrophiques du point de vue de la dégradation de la sécurité et du recrutement dans les groupes djihadistes. Ouais. Bref, passons. Et à ce moment-là, donc, l'Algérie, avec d'autres pays, a poussé pour ces accords d'Alger qui visaient à faire signer la paix entre les groupes indépendantistes et la capitale malienne. Ce qui a été fait et ce qui, pour la France, était un enjeu important parce qu'elle espérait que ça permettrait de trier, de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie dans les groupes Touareg, entre ceux qui étaient dans les groupes djihadistes et ceux qui n'y étaient pas. Voilà, donc l'Algérie s'est impliquée là-dedans et parallèlement, les autorités françaises et un certain nombre d'observateurs pensaient qu'elle, pour partie, elle menait double jeu et qu'elle avait des relations avec un des dirigeants de ces groupes djihadistes, Yad Agrali, qui est devenu aujourd'hui l'ennemi, enfin qui a été longtemps l'ennemi public numéro un de la France, puisqu'il a pris la tête de la coalition des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Et voilà, bon, après, j'ai pas d'éléments de première main pour dire si ces accusations étaient fondées ou pas, mais en tout cas, elles ont été exprimées à demi-mot publiquement par les autorités françaises. Pour la Mauritanie, c'était un des pays qui était membre du G5 Sahel, donc lié à l'opération Barkhane, mais qui n'était plus en réalité vraiment concerné par les attaques djihadistes. Elle l'avait été au tout début, notamment lorsqu'il y avait eu des prises d'otages de Français. Certains avaient été capturés en Mauritanie. Et au bout d'un certain temps, la Mauritanie a été plus ou moins débarrassée de la menace djihadiste et il y a un certain nombre d'interrogations sur la manière dont elle est parvenue à ce résultat. Certains chercheurs font valoir la manière dont elle a réussi à réintégrer dans le jeu politique justement des islamistes radicalisés qui sont ensuite venus prêcher contre les groupes djihadistes. Certains font valoir également la manière dont son armée a réussi à faire un quadrillage du territoire et des zones frontalières plus efficace que dans les autres pays. Et certains font valoir aussi le fait que peut-être il y aurait eu un deal avec ces groupes djihadistes pour qu'on les laisse tranquilles, à condition qu'ils n'attaquent pas la Mauritanie et qu'ils restent dans les autres pays. Mais bon, voilà, il y a des discours un peu contradictoires sur le sujet, et personnellement, je n'ai pas vraiment moyen de trancher pour savoir si ça relève de la vérité ou pas.
Bonsoir. Je voulais savoir dans quelle mesure on ne peut pas inclure dans la haine qui est grandissante contre les militaires français et le dégagisme, la réaction qui en a découlé à la situation, bien sûr coloniale et ensuite néocoloniale, mais qui a fait que ces pays-là, les trois, ont été maintenus dans une très grande misère, et notamment les zones nord, celles occupées par les Touaregs, où les territoires sont ceux qui ont été exploités pour leur richesse minière, alors que les populations sont parmi les plus miséreuses.
Alors je ne sais pas s'il y a un lien direct entre cette situation de misère et le phénomène que j'ai décrit de montée d'hostilité à l'égard des militaires ou de l'ingérence politique française. C'est possible, mais j'en suis pas certain. Et en tout cas, ça n'a pas pris une part. Ça n'a même pas apparu tellement dans les discours des militaires putschistes à ce moment-là. Y compris là où je l'attendais, c'est-à-dire que par exemple au Niger où on a Orano qui exploite des mines d'uranium depuis des décennies et qui n'ont que très très peu profité à la population et qui leur ont au contraire beaucoup nui en raison de la pollution radioactive qui s'en est suivie, et de l'accaparement de certains territoires, absolument, eh bien, cette question-là n'a absolument pas été mise en avant par les militaires nigériens, jusqu'à très récemment, en tout cas, où ils ont finalement repris un permis qu'ils avaient, dont Areva disposait depuis une dizaine d'années, mais qu'elle ne se décidait pas à exploiter. Et là, ils viennent de lui retirer. Mais donc, ce n'est pas un aspect vraiment qui est apparu, et encore moins, je dirais, concernant l'organisation économique internationale, puisque une des premières choses qui a été faite par ces juntes militaires, qu'il s'agisse aussi bien du Mali, du Burkina que du Niger, ça a été de re-signer des pactes avec le FMI et la Banque mondiale pour récupérer des prêts et en échange, bien évidemment, des contreparties qu'on connaît en matière d'ajustement structurel, pour reprendre l'expression consacrée, hein, et de mesures d'austérité, etc. Donc, il y a, en tout cas, de la part des militaires qui ont pris le pouvoir, on n'est pas sur un discours à la Sankara, on va dire, par certains aspects, oui, en particulier au Burkina, mais par certains aspects seulement, quoi.
Bonsoir. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la présence russe dans ces trois pays ?
Oui. Alors, en 2020, Emmanuel Macron, voyant que l'armée française s'enlisait dans ces pays-là et qu'il n'y avait pas véritablement de porte de sortie, a commencé à se plaindre un peu plus, de manière un peu plus virulente, de l'attitude de certains pays, en particulier les autorités maliennes, qui étaient accusées de ne pas faire suffisamment d'efforts pour redéployer des administrations dans les pays, dans les zones supposément libérées par l'armée française, et pour redisputer le contrôle des populations aux djihadistes, et ont annoncé ensuite vouloir se désengager militairement de certaines de ces zones et démanteler certaines bases militaires françaises dans le nord du Mali. À ce moment-là, les autorités maliennes l'ont extrêmement mal pris, ont accusé l'armée française de les lâcher en plein vol, hein, pour reprendre une expression qui a été utilisée devant l'ONU, de la part du Premier ministre malien, et ont annoncé vouloir diversifier leur partenariat militaire l'armée française décidait de se désengager partiellement. Et donc elles ont annoncé des négociations avec le groupe Wagner. Enfin, ou plus exactement, ces négociations ont été révélées d'abord par l'agence Reuters, et puis elles ont été ensuite officialisées. Et les autorités françaises ont exercé de très fortes pressions pour que ces négociations soient rompues en disant grosso modo vous choisissez, c'est soit les Russes, soit nous. Et les autorités maliennes ont dit eh ben, très bien, merci, au revoir, et ce sera les Russes. À partir de ce moment-là, donc le groupe Wagner, enfin qui s'appelait Wagner, qui a changé de nom aujourd'hui, est arrivé au Mali pour faire plus ou moins ce que faisait l'armée française, c'est-à-dire combattre aux côtés des militaires maliens, de manière plus brutale, avec encore moins de considération pour les populations civiles, alors qu'il y avait déjà eu des massacres importants du temps où l'armée malienne combattait aux côtés des Français. Et à ce moment-là, les Français se gardaient bien de dénoncer les massacres. Ils ont commencé à le faire quand l'armée malienne a combattu aux côtés de Wagner. Ces milices sont présentes au Mali. On les a vues également en moins grand nombre pendant un temps au Burkina Faso, il y a quelques mois, dans une période un peu trouble où il y a peut-être eu une tentative de coup d'État, on ne sait pas trop. En tout cas, il y a plusieurs dizaines de membres de Wagner qui, à ce moment-là, sont venus vraisemblablement sécuriser le régime et puis sont repartis, pour certains d'entre eux en tout cas. Et elles ne sont pas présentes au Niger, mais le Niger a signé des accords de coopération avec la Russie. Et par contre, il y a une société militaire privée turque qui est présente au Niger, qui fonctionne un peu sur le même principe que Wagner, mais dont on ne connaît pas trop les activités, en tout cas en ce qui me concerne pour l'instant, au Niger. Donc voilà ce qu'il en est à ce jour.
Finalement, la présence française aujourd'hui en Afrique considérablement diminué. Les accords militaires que la France a avec les pays africains, ça se résume à quoi ?
C'est compliqué parce que des accords militaires, il y en a beaucoup, y compris avec des pays avec lesquels la France n'a qu'une coopération militaire très faible, où on va accueillir quelques personnes de temps en temps, ou alors on va détacher une ou deux personnes de l'armée française pour faire un petit peu de formation, et donc il va y avoir un accord militaire. À côté de ça, il y a des pays dans lesquels la coopération militaire, par contre, reste très importante. J'ai cité quelques pays tout à l'heure. Bon, c'est quand même, et ça reste quand même essentiellement des pays du précaré, c'est-à-dire d'Afrique subsaharienne, tous les pays d'Afrique de l'Ouest, centrale, etc., plus Djibouti. Il y a également des pays avec lesquels il va y avoir une coopération militaire, mais qui est essentiellement liée à la question des ventes d'armes, que ce soit l'Afrique du Sud, l'Égypte ou des pays comme ça, ou le Maroc, où on va moins être dans une posture de tutelle et de formation d'armée africaine, avec un rôle que l'armée française exerce depuis des décennies dans ces pays-là sous prétexte de les rendre indépendants militairement. Mais plus l'armée les forme, et plus on a l'impression qu'ils sont moins indépendants militairement, et où elle va plus être présente pour faire de la formation sur le matériel qu'on va vendre. Voilà, donc il y a vraiment des cas de figure et des configurations assez diverses et des accords très très divers dans leur forme et leur contenu. Il y a encore une base militaire au Gabon, il y a encore une base militaire au Sénégal, il y a encore une base militaire qui ne dit pas son nom au Tchad, une à Djibouti, et puis il y a de la coopération militaire importante avec le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, toutes les anciennes colonies françaises, à part celles qui aujourd'hui viennent de se fâcher avec l'armée française, maintiennent une coopération militaire. Il y a une volonté, quand on lit les derniers rapports parlementaires, on est face à une situation également de concurrence accrue, y compris en matière militaire et de coopération militaire, y compris dans le précaré africain, et qu'il y a eu aussi une tendance à la réduction des budgets mis à la disposition pour accueillir des stagiaires militaires africains en France. Il y a une demande des parlementaires et des militaires français de commencer à inverser la tendance et d'accueillir à nouveau davantage de stagiaires africains pour contrebalancer cette tendance-là, à voir si ça se concrétisera ou pas, mais en tout cas, la demande est exprimée. Parce qu'on considère, pour aller jusqu'au bout de l'explication, parce qu'on considère que ça participe de l'influence française. Voilà. Et pas simplement sur l'aspect militaire, mais parce que, alors déjà, d'une part, dans certains pays, les autorités militaires et les autorités politiques sont les mêmes. Donc quand on exerce une influence militaire, ben ça, de fait, ça exerce aussi une influence politique. Et puis, parce que, voilà, même dans les pays où l'armée n'est pas au pouvoir, elles ont parfois quand même un rôle politique important. Et donc c'est une manière pour la France, et c'est écrit en toutes lettres de manière complètement décomplexée dans les publications officielles, c'est, ça participe de l'influence française dans ces pays-là.
Bon, je ne sais pas s'il y a des questions, des interventions dans la salle. Mais sinon, enfin, à la lecture de ton livre, enfin, on est complètement effaré par le fait que, enfin, voilà, que la France se soit engagée là-dedans. Voilà, les Américains ont eu leur brebis en Irak, nous on voulait le nôtre au Sahel. Enfin, ça s'est décidé, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, et on a l'impression qu'il y avait une espèce de navigation à vue. Quand la France essayait de se cacher, de ne pas assumer pleinement les responsabilités en essayant de s'associer avec l'Europe, avec une mission de l'ONU, avec, pour dire on n'est pas les seuls, on n'est pas les seuls à être dans cette espèce de guerre absurde, mais dans les faits, il y a eu quelques contingents européens, mais très très peu, et qui ne sont pas restés longtemps. Et voilà, donc le discours officiel, est-ce que c'était une opération internationale ou est-ce que c'était une opération française?
Je vais dire un mot de la question du pourquoi déjà que tu posais là, qui est une question importante effectivement. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la dimension purement idéologique. C'est-à-dire effectivement combattre le terrorisme, avec des guillemets, hein, parce que le discours... Alors c'est difficile de faire la part entre ce qui relève d'un discours de justification et ce qui relève d'une analyse réellement partagée par ceux qui la disent, mais le discours qui était dit, effectivement, c'est ce qui se passe au Sahel, ça n'est que le prolongement de l'activité des groupes terroristes en Syrie, en Irak, et donc le combat contre le terrorisme qu'on mène là-bas, il faut le mener également au Sahel, et comme c'est une guerre mondiale, en quelque sorte, eh bien, il est légitime que des interventions internationales soient décidées et soient menées. Donc ça, c'est pour le discours de justification. Mais je pense qu'il y avait quand même aussi une part d'aveuglement sur le fait que ces groupes-là étaient la copie conforme de ce qu'on voyait de l'État islamique, par exemple, en Syrie ou en Irak. En réalité, ce qu'ont montré les chercheurs qui travaillent sur la question, c'est que la dimension locale, au moins au début, en tout cas les premières années, et les enjeux politiques locaux étaient beaucoup plus importants que les enjeux idéologiques et religieux, au moins pour une grande partie des cadres intermédiaires de ces mouvements, et à plus forte raison pour les combattants recrutés, pour qui la préoccupation religieuse et politique n'arrivait souvent qu'en dernière partie des motivations. Et ça a rejoint la question des négociations qui auraient été possibles de mener, dont je parlais tout à l'heure. À côté de cette dimension idéologique, je pense qu'il y avait des intérêts économiques, mais qui n'étaient pas forcément ceux qui étaient dénoncés. Il y a notamment tout un discours au Mali qui a été repris en France par certaines mouvances anti-impérialistes disant « si la France intervient au Mali, c'est pour faire main basse sur les ressources minières, uranium ou pétrole ou du sous-sol malien ». Alors j'ai essayé de prendre cette question au sérieux et de la creuser un petit peu. Et je vais pas faire toute la démonstration, mais grosso modo, c'est tellement enclavé et peu intéressant économiquement que j'en doute très fortement. Je le détaille un petit peu dans le livre. En revanche, je pense que ça n'était pas complètement déconnecté d'intérêts économiques régionaux plus larges. Bon, il y a bien évidemment la question d'Areva au Niger, dans lesquelles il y avait déjà eu des prises d'otages de la part de ces groupes-là en 2011. Et je pense qu'il y avait une réelle crainte que ces prises d'otages, justement, qui se multipliaient, ne devienne une menace sur des intérêts pour des multinationales françaises, y compris dans des pays assez éloignés des endroits où étaient implantés les djihadistes, puisqu'ils étaient capables de mener des attaques parfois assez loin de leur zone d'implantation. On peut se rappeler par exemple qu'en 2016, il y a eu des attentats en Côte d'Ivoire à Grand Bassam, dans une zone touristique, et alors qu'il n'y a pas du tout d'activité djihadiste dans la région. Et je pense que ça, c'est un élément qui a pu peser de vouloir mettre un terme à ces prises d'otages qui menaçaient les intérêts économiques français. Mais par-dessus tout, je pense que la motivation principale, c'est celle que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la même logique qu'on a vue à l'œuvre par les années passées, c'est-à-dire cette volonté de stabiliser, entre guillemets, les pays dans lesquels on constate des crises par des moyens militaires pour continuer à affirmer que la France est une puissance capable d'intervenir sur la scène internationale et puis donc par conséquent de mériter son poste de membre permanent de l'ONU avec droit de veto, etc. etc. Pour ce qui concerne la question de l'enlisement, alors si on écoute les autorités politiques, il n'y en a jamais eu. Donc le problème est vite réglé. Les militaires ne tiennent pas tout à fait ce discours, et surtout après le déclenchement, enfin après la fin de l'opération Barkhane, un certain nombre d'entre eux se sont un petit peu lâchés et ont dit pour qu'on sorte de cette situation d'enlisement, il aurait fallu que la stratégie militaire qu'on a mise en œuvre et qui était une bonne stratégie, donc il n'y a pas d'autocritique là-dessus, mais qu'elle débouche sur un travail des politiques, des diplomates, des économistes pour reconstruire le tissu social ou pour réussir à se réapproprier les populations, etc. Bon, toutes les théories du continuum sécurité-développement que vous pourrez voir développer, y compris à propos de l'Irak, de l'Afghanistan, etc., où ces théories ont été forgées. Et donc les militaires se plaignent un petit peu de l'inactivité des diplomates ou des et c'est quand même un petit peu amusant parce que dans ces pays-là particulièrement, les militaires, en réalité, ont évincé la diplomatie française, ont fait réellement la politique africaine de la France. Et la politique qui a été menée pendant ces 10 ans a été très largement décidée par les militaires français. Donc je les trouve aussi un petit peu gonflés de se plaindre ensuite que les diplomates n'ont pas eu leur mot à dire dans la mesure où ils ont très largement contribué à les effacer.
Ben... On va peut-être conclure et remercier chaleureusement Raphaël. Merci beaucoup. Et Jérôme. Merci.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.